Bonsoir. Clôture ce week-end à Kinshasa des concertations nationales. Dans son discours à cette occasion, le chef de l'État dit avoir compris la préoccupation des participants qui ont notamment recommandé que la majorité ne tienne pas éloignée la minorité de la gestion de la chose publique. Comment analyser les discours du chef de l'État et quel bilan dresser des concertations nationales? Nous en parlons avec Franklin Tshiamala, il est communicateur de la majorité présidentielle. Il était aussi délégué de la MP aux concertations nationales. Bonsoir Franklin Tshiamala.
Bonsoir à mon frère Guimati.
Fabien Moutombe, il est député national de l'opposition et premier vice-président du groupe parlementaire UDPC allié à l'Assemblée nationale. Bonsoir Fabien Moutombe.
Bonsoir et bonsoir aussi aux auditeurs de la radio Okapi.
Et lui, il est au téléphone, c'est le professeur Félicien Kabamba, il est professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir.
Nous avons reçu plusieurs réactions, notamment celle de Robert Bahomé de Bukavu, Sud Kivu. Le discours du président de la République sur la clôture des travaux de concertation nationale est un bon discours. Néanmoins, je pense que ce discours sera intéressant si, dans les faits, il se démarque des discours politiques antérieurs en accédant réellement aux souhaits les plus ardents de la population congolaise, plutôt, à savoir la fin de la crise multiforme en RDC et rien d'autre que cela. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le président de la République annonce la tenue d'un congrès devant les deux chambres du Parlement dans les tout prochains jours. Joseph Kabila a fait cette annonce samedi dernier au Palais du Peuple alors qu'il prononçait les discours de clôture des concertations nationales. Le chef de l'État affirme que ça sera l'occasion de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales. Il ajoute que des mesures importantes seront annoncées dans le but d'imprimer toujours selon lui un nouvel élan à l'œuvre des reconstructions nationales. Un extrait du discours du président Joseph Kabila sélectionné par Mimi Ngumba Mulongo, notre permanente au Palais du Peuple.
Je tiens à relever que sur le plan politique, le message de force vive de la nation congolaise est double. D'une part, vous tenez au respect du cadre institutionnel qui régit notre pays. D'autre part, face aux enjeux de l'heure, vous estimez qu'il ne faut pas sacrifier les impératifs de la pacification et du développement accéléré du pays sur l'autel d'une orthodoxie démocratique qui voudrait que la majorité tienne la minorité éloignée de la gestion de la chose publique. Soyez assurés que je vous ai entendu et que je vous ai compris.
Franklin Tshiamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous étiez délégué de la MP aux concertations nationales. Le chef de l'État dit qu'il vous a compris, vous participez en concertation nationale. Vous estimez qu'on ne doit pas sacrifier certains impératifs au nom de l'orthodoxie démocratique qui voudrait que la majorité tienne la minorité éloignée de la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Merci beaucoup, mon frère Guimaté. Je pense que le message du chef de l'État adressé au peuple congolais à travers son discours de clôture des travaux des concertations nationales ne comporte pas des mystères du tout. Il n'y a pas de parabole dedans, il n'y a pas de formule mathématique là-dedans, il n'y a pas de formule algébrique dedans, tout est clair, comme l'eau de roche.
Nous savons que la démocratie a ses règles, n'est-ce pas? Et c'est en démocratie, c'est la majorité qui gère. Il y a même des penseurs qui qualifient la démocratie de la dictature de la majorité. Ici, en suivant les discours du chef de l'État, c'est comme si vous, conservateurs, vous souhaitez qu'on mette en place, n'est-ce pas, une structure où majorité et minorité vont être ensemble pour gérer la chose publique.
Mais ce n'est
pas
quelle, chose...
C'est quelle démocratie? C'est une démocratie à la congolaise?
Ce n'est pas une chose nouvelle, que je sache. Déjà, à sa prestation de serment, le chef de l'État, en 2011, avait annoncé sa politique d'ouverture. Et il est resté sur la ligne. Rappelez-vous qu'à la formation du gouvernement, Matata, des opposants y ont été admis.
Mais si ce n'est pas nouveau, pourquoi vous proposez encore cela au chef de l'État alors que vous savez que, dans les faits, c'est une réalité?
Il a même continué, parce que d'autres institutions, d'autres organes aussi importants que le gouvernement ont été mis en place. La coordination des suivis, de la mise en œuvre, de l'accord cadre d'Addis Abeba est piloté à ce jour par François Mamba, qui est connu comme étant l'un des meilleurs enfants de notre pays, qui évolue à l'opposition également. Le chef de l'État, ici, constate simplement que la dynamique qui s'est dégagée au sein des concertations est allée dans le sens de ce qu'il a toujours souhaité tout le temps. En fait, le chef de l'État a mis sur notre table, depuis le début de cette législature, le paradigme de la responsabilité collective des Congolais. Nous avons devant de nous des défis importants. Le développement de ces pays, suivant l'entendement du chef de l'État, ne peut pas être l'affaire d'un citoyen ou d'un parti ou d'un groupe d'individus. Parce que rien ne peut justifier que nous laissions sur la route des citoyens congolais qui sont à même de fournir un apport au développement social et économique de notre pays. Il revient là-dessus.
Et à votre avis, en quoi ce qui s'est fait maintenant, c'est-à-dire la gestion telle que s'est fait actuellement, la gestion du pays, en quoi cela sacrifie les impératifs de la pacification et du développement accéléré, parce que c'est ce qui est dit dans le discours du chef de l'État?
Le chef de l'État constate simplement qu'il y a des choses qui nous freinent par moment dans un certain nombre de projets que nous voulons mettre en place.
Quelles sont ces choses?
Du fait de l'amplification par moment des dynamiques revendicatives, parfois objectives et parfois même subjectives. Il constate également que, il y a toujours des récriminations qui fusent ça et là, qui sont par moments objectives et qui sont par moments subjectives. Et il se dit, mais puisque nous avons la possibilité d'atténuer tout ceci, qui constituent des pesanteurs importantes sur les dynamiques des développements sociaux et économiques de notre pays et sur le projet de construction de la paix durable dans notre pays. Il pense que nous pouvons atténuer toutes ces pesanteurs qui sont exprimées en forme des récriminations, en forme des revendications, je ne dis pas toujours objectives, mais parfois subjectives, et qui ont conduit par moments à des égarements. Il dit, nous pouvons les atténuer en mettant en place des dynamiques qui mettent à contribution notre responsabilité collective. Il nous dit, allons-y, essayons encore une fois.
François Jamala, les concertations ont pris fin, mais là, rien n'est dit au sujet de l'objectif ultime, n'est-ce pas, poursuivi par ces concertations. Cohésion nationale, rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, la pacification de l'Est, l'amélioration de la gouvernance. C'est plutôt la question sur la formation des nouveaux gouvernements qui semble préoccuper vous, concertateurs, vous qui avez participé aux concertations.
Non, vous n'avez pas suivi, vous avez suivi. Au nombre des recommandations qui ont été formulées figure notamment cette recommandation qui préconise l'affectation des militaires en dehors de leur province d'origine, la libération des prisonniers politiques, les suivis du dossier de sénateur Jean-Pierre Bemba.
C'est vrai qu'il y a plusieurs recommandations et résolutions, n'est-ce pas?
Oui.
Mais dans les débats actuellement, dans la classe politique, en fait, les débats, c'est la formation de ces gouvernements que les uns appellent gouvernement d'union nationale, d'autres par contre l'appellent gouvernement de l'âge ouverture. C'est ça en fait qui semble préoccuper la classe politique actuellement.
Nous parlons de quoi? Nous parlons des recommandations formelles et écrites qui sont issues des concertations nationales, où nous parlons de la spéculation qui s'en est suivie ou de la spéculation qui a précédé. Non, je pense qu'il faut parler du concret. Les recommandations sont nombreuses.
On note le nombre de ces recommandations. C'est pas du concret, c'est parmi les choses qu'on peut qualifier comme étant spéculation.
Je pense que
c'est pas formellement mentionné dans les recommandations.
Formellement, ce n'est pas dit. Ce n'est dit ni dans les rapports du groupe thématique qui s'est penché sur la question de gouvernance et des réformes institutionnelles, ni dans un autre.
Alors, d'où vient ces débats, en fait?
Je pense que ces débats sur quoi? Il faut que dans un contexte démocratique qui consacre la libre expression, Il faut qu'on reconnaisse aux citoyens la liberté de s'exprimer, la liberté de faire des prospectives sur la gouvernance du pays. C'est aussi cela. Et donc maintenant, est-ce que formellement, au nombre des recommandations qui ont été lues par le secrétariat technique, avez-vous entendu expressis verbis une recommandation allant dans le sens de requérir la formation d'un gouvernement d'union nationale?
Vous êtes de la majorité, l'idée de la mise en place d'un gouvernement de large ouverture vient de vous, majorité, ou de l'opposition?
Non, vous avez suivi depuis le début que des citoyens congolais se sont exprimés librement sur cette question au nom de la liberté démocratique qui est consacrée par la constitution de notre pays. Je ne pense pas que ce soit un péché qu'un citoyen congolais ait donné son point de vue là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est cela qui constitue l'essentiel de la matrice des recommandations qui ont été formulées par les différents groupes thématiques?
Apparemment, c'est ça, parce que c'est un débat qui éclipse même les problèmes fondamentaux.
Non, je pense qu'il ne faut pas éluder des recommandations importantes qui ont été formulées par les concertations nationales. En nombre de ces recommandations notamment figure la recommandation qui préconise dorénavant de lutter contre l'enrichissement illicite des gouvernants, au nom desquels on met en exergue l'enrichissement illicite des membres du gouvernement.
Merci.
On parle notamment également de promouvoir la culture de gouvernance, la bonne, et la culture de paix.
Merci,
et donc,
Franklin
je
Diamala.
Pense que c'est une chose sur laquelle il faut s'atteler.
Merci. Fabien Moutombo, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et premier vice-président du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas participé aux concertations nationales, mais vous affirmez que ces assises n'ont fait que confirmer une nouvelle majorité ayant une même vision politique.
C'est simple. Le peuple congolais et la communauté internationale attendaient un dialogue inclusif. Un dialogue où le peuple congolais, toutes tendances confondues, devrait se regarder en face, poser un diagnostic et prescrire une médicamentation adéquate.
Un dialogue auquel on vous a confié, vous de l'opposition, mais vous avez refusé.
Laissez-moi évoluer.
Vous avez décliné
alors,
l'invitation.
Alors, ce dialogue-là que nous avons attendu, c'est un dialogue qui répond aux impératifs de la résolution 2098 du Conseil des Nations Unies. Et si vous prenez la résolution, excusez-moi, je peux juste jeter un coup d'œil.
Je vous en prie.
Si vous prenez la résolution 2098, point 14b, on vous dit promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections
n'est-ce pas
provinciales et locales crédibles et transparentes.
C'est pas ça qui a été fait?
Compte tenu de tout ce que je viens de dire, on parle d'un dialogue inclusif, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, ce sont des concertations réunissant les membres d'une même famille politique élargie à la nouvelle majorité. Qu'est-ce qui se passe?
Et donc, les opposants qui ont accepté de participer à ces assises, ils deviennent automatiquement membres de la majorité présidentielle.
Mais ils sont membres de la nouvelle majorité. Puisque, si vous analysez très bien les concertations, il n'y a pas eu de dialogue. Les concertations auxquelles, celles que nous avons suivies, c'est juste une réunion, un congrès d'une famille politique élargie à ses alliés stratégiques.
Mais nous apprenons que dans les différents groupes thématiques, il y avait eu des débats, n'est-ce pas, sur des questions qui se posent au pays actuellement.
Mais Guy Maté, retenez un peu. L'objectif poursuivi par ces concertations. On parle de la cohésion nationale. Et vous allez partir dans une réunion qui va traiter de la cohésion nationale en mettant de côté celui qui a gagné aux élections présidentielles, monsieur Étienne Tshisekedi, quand bien même vous lui avez donné 33%. N'est-ce pas? Vous mettez aussi à l'écart celui qui venait juste après Vital Kamerhe. En clair, si vous analysez cette situation, la cohésion nationale, c'est juste un alibi. Mais qu'est-ce qui est poursuivi? Là, les auditeurs et le peuple congolais doivent le savoir. Ce qui est poursuivi, c'est à travers des manœuvres sordides, pérenniser le pouvoir de Kabila en contournant malignement l'article 220, le bloc intangible. Qu'est-ce qui se passe?
Vous savez que si vous avez accepté de participer à ces concertations, et parce que vous comprenez que c'était ça, n'est-ce pas, l'objectif, vous auriez déjoué ce plan-là en étant dans les concertations nationales.
Attention, les décors étaient déjà plantés. Nous avons posé des préalables légitimes au départ. D'abord sur la composition du présidium. Vous allez constater que les deux sont d'une même famille politique. L'honorable Aubin Minaku et Monsieur Kengo Andondo.
Officiellement, Kengo est de l'opposition.
Ils sont tous d'une même famille politique. Comment est-ce que vous pouvez vous expliquer? Dans un Sénat où Kengo est minoritaire, il a en face de lui, chez Okitundu, cofondateur du PPRD, membre influent de la majorité présidentielle. Mais ils vont aux élections, un homme, un vote, Kengo bat chez Okitundu. Qui est plus PPRD que l'autre? Ça, soit dit en passant, c'était juste une parenthèse. Et quelles sont les techniques utilisées par la coalition au pouvoir? Dieu merci, aujourd'hui, nous avons sur la scène politique congolaise, il y a deux pôles très bien aérés.
Alors, revenons à vos déclarations. Lorsque vous dites que les concertations n'ont pas atteint les objectifs, que les questions des fonds n'ont pas été abordées, et quelles sont ces questions des fonds qui n'ont pas été abordées selon vous?
Nous avons dit que le congrès n'a pas encore eu lieu. Ces concertations concernent tout simplement une famille politique.
Quelles sont les questions des fonds qui n'ont pas été abordées?
Permettez. Et cette famille politique élargie, elle a en face d'elle l'opposition recadrée, débarrassée de tous les faux opposants. Et alors qu'il est, quel est le problème? Quels sont les problèmes qui n'ont pas été? Quels sont les problèmes qu'on n'a pas attaqués objectivement? Voilà. Mais là, je vous répondrai en vous disant ce qu'ils ont attaqué. La cohésion nationale, ils ont mis de côté, mais ils ont plus, vous-même vous l'avez très bien dit, appâté les assoiffés du pouvoir, les gens de l'opposition, avec le pseudo-gouvernement qu'ils vont mettre sur pied, en leur demandant, en créant une ouverture. Mais si vous avez gagné aux élections haut la main, comme vous le dites, vous êtes presque au milieu de votre mandat.
Merci,
vous avez pleinement échoué. Mais maintenant, vous tendez la main à l'opposition pour que vous puissiez juste partager cet échec. Le problème n'est pas là. Le problème, la grande question, c'est, ils ont discuté pour pérenniser le pouvoir de Kabila. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas tripatrouiller l'article 220, mais il commence l'organisation des élections.
Voilà, nous allons prendre pour vous cette réaction qui va dans le même sens. C'est une réaction qui vient de Mbujima et au Kasaï oriental.
Moi, c'est John Keta à partir de Mbujima et au Kasaï oriental. Lorsque les conservateurs disent que la majorité doit intégrer la minorité dans la gestion de la République, résolution soutenue par le Raïs dans son discours de clôture, c'est une haute intelligentsia. Autrement, ça signifie gouvernement d'union nationale. Donc, pas d'élection en 2016. Le compteur de mandat du Raïs redémarre.
Oui, votre réaction.
Mais c'est monsieur John Keita. Il est extrêmement intelligent et je demande au peuple congolais, aux auditeurs, de suivre. Clairement, je vais expliciter ce qu'il a dit. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de continuer avec les cycles électoraux, il y a eu les élections présidentielles, législatives, il fallait passer par les élections provinciales,
voilà.
Et puis locales, municipales et urbaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les concertateurs, les membres de la majorité, l'actuelle majorité présidentielle? Ils disent qu'ils vont commencer par les élections municipales, locales et urbaines. Ce sont les élections coûteuses. qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont nous amener jusqu'en 2016, voire même en 2017, avec comme conséquence la pérennisation du pouvoir, de Kabila au-delà de 2016.
Pourtant, vous avez toujours souhaité, vous, de l'opposition,
qu'on le combatte les élections par la base. Qu'est-ce que nous avons demandé? Nous demandons tout simplement qu'on respecte les cycles. Aujourd'hui, par exemple, 2014, nous passons directement aux élections provinciales. Ce sont les élections moins coûteuses, qui ne prendront même pas beaucoup de temps. En ce moment-là, Kabila dégage en 2016. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste une passe pour permettre à ces derniers d'aller au-delà de 2016 en violant brillamment, en faisant un coup d'État institutionnel.
Merci, nous avons compris. Merci. Professeur Félicien Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Et comment vous analysez ces débats?
En soi, les concertations politiques ont donné lieu à des recommandations dont certaines sont extrêmement intéressantes. Et j'ai essayé de parcourir toutes les recommandations. Je trouvais que dans le travail qui a été accompli, il y a des très très bonnes choses. Tout le problème qui se pose maintenant, c'est celui de la mise en œuvre de recommandations qui résultent de ces concertations. Et je crois que c'est l'un des problèmes, d'ailleurs, qui a amené l'opposition, entre autres, à boycotter ces élections, disons ces concertations, étant donné que la mise en œuvre contraignante de ces recommandations n'était pas assurée. Et ce qui est vrai, c'est que il faudra aujourd'hui faire particulièrement et scrupuleusement attention aux mesures de soutien de tout ce processus de mise en œuvre, mais aussi les mesures pouvant être envisagées à cet égard doivent comprendre l'approbation des résultats de concertation au moyen d'un processus qui, à mon avis, doit être très large et doit être public. Aujourd'hui, personne ne peut garantir que tout ce qui a été pris comme résolution va être mis en œuvre, et c'est peut-être là la tache noire de ces concertations, déjà au niveau de sa conception. Quand vous regardez mieux les concertations telles qu'elles avaient été convoquées, elles avaient généré beaucoup d'attentes tant au sein du milieu politique que au sein du public. Et tout celui qui suivait l'actualité de près devait se mettre en tête, en fait, qu'à travers ces concertations, on allait atteindre des objectifs, par exemple, le rétablissement et la construction de la paix, la consolidation de la confiance, la promotion de la réconciliation, la prévention de la violence, le renforcement de la légitimité du pouvoir. Et donc, il y avait là plusieurs objectifs à atteindre. Et l'un des objectifs, en rapport avec ce qui se passe à l'Est, c'était, par exemple, la réduction de la fragilité de l'État et de ses institutions à tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, c'est très tôt de dire que tous ces objectifs n'ont pas été atteints. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien comment le gouvernement, parce qu'il faut dire aussi que ce qu'on reproche à ces concertations, c'est leur préparation chaotique, mais aussi un système de communication sûr qui était, à mon avis, assez déficitaire. On n'a pas assez communiqué sur une concertation, sur ce qui s'est passé, et du coup, il est très difficile aujourd'hui de faire un bilan assez exhaustif de ces concertations.
Professeur Koba, réagissez-vous aux propos de l'honorable Fabien Mutombo, qui pense que les questions des fonds n'ont pas été abordées lors de ces concertations?
Disons qu'ils ont abordé certaines questions essentielles. C'est vrai que les concertations ont été limitées dans le temps, mais aussi elles ont été limitées dans les matières. Ce qui fait que il y a des questions qui ont été abordées sur le plan sécuritaire, mais ils ont aussi osé aborder des questions qui touchent à la Constitution. Et du coup, tout le monde se réjouit de ce que, là, il y a une recommandation qui, par exemple, enjoint à ne pas modifier les textes constitutionnels, et notamment l'article sur lequel tout le monde a le regard. Donc, je crois que là-dessus, il y a bien des choses qui ont été faites, Seulement, il faudra bien se rendre compte que, comme le chef de l'État lui-même l'a dit, les concertateurs ne vont pas se muer, disons, aux détenteurs du pouvoir. Donc, du coup, on se demande quelle est donc l'étendue de leur pouvoir et surtout, quel sera, évidemment, les statuts des résolutions qui ont été prises par les concertateurs.
Professeur,
du coup,
comment vous expliquez le fait que la question sur le gouvernement d'Union nationale ou gouvernement des larges ouvertures puisse éclipser les problèmes sur les problèmes de fond comme la cohésion nationale, comme l'extension de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, comme la pacification de l'Est et l'amélioration de la gouvernance? Pourquoi cette question de la formation du nouveau gouvernement semble beaucoup plus préoccuper la classe politique? Et plus précisément, ceux qui ont participé à ces concertations.
Bon, mais je crois que cela, on devait bien s'y attendre. Déjà avant les élections, tout le monde savait que, évidemment, une fois les élections terminées, on allait avoir un nouveau gouvernement. Probablement que le Premier ministre pourra rester ou il pourra partir, on ne sait pas, mais que les concertations allaient donner lieu à une certaine ouverture vers la société civile, vers l'opposition. Et donc, du coup, c'est devenu pratiquement une panacée. Chaque fois qu'une concertation se tient, on s'attend qu'après, il puisse y avoir un gouvernement d'union nationale allant dans le sens de créer la cohésion nationale. Mais il faut quand même dire aussi que dans cette concertation, il y a quelques constats à faire. Parce que, en fait, quand vous regardez mieux, vous allez trouver que la communauté internationale avait joué un rôle considérable dans l'initiative de dialogue, notamment avec les accords d'Addis. Mais cette même communauté internationale n'a plus joué de rôle visible dans la facilitation, encore moins dans les soutiens aux concertations politiques. Une deuxième donnée, c'est que, en fait, les concertations nationales sont conçues comme une affaire ponctuelle, alors que le problème politique complexe et les chemins qui sont profondément ancrés dans la méfiance et dans l'hostilité ne peuvent être résolus que grâce à des événements de dialogue isolés. Donc, ne peuvent pas être résolus grâce à des événements de dialogue isolés et ponctuels. Il faut là une construction d'une cohésion sociale suffisante et le renforcement d'institutions fonctionnelles dans une société qui construit ce processus sous le long terme.
Merci, professeur.
Et ce processus doit s'étaler sur plusieurs années. Mais ce n'est pas un événement qui est fait dans deux semaines qui va créer la cohésion donc nationale. Il faut, à mon avis, que se crée une véritable culture de dialogue, et c'est ça ce qui manque jusque-là.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Lubumbashi au Katanga.
Todi Kasongo, depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. Nous saluons les solutions proposées aux concertations nationales et l'attention que le chef de l'État accorde à celles-ci. Mais l'ouverture du gouvernement n'aura aucun impact sur le social du Congolais et risque de ralentir des bons élans économiques dont le gouvernement Matata fait preuve. Par contre, il ne fera que gonfler le budget du fonctionnement de l'État. Car parmi les chapelets de bonnes intentions, il y a des solutions conjoncturelles. La stabilité des prix, des taux d'échange, la réhabilitation des infrastructures en général, nous voyons que le gouvernement actuel s'y attelle. Et celle structurelle, l'électricité, l'eau, la baisse du taux de chômage, l'équilibre de la balance des paiements, les bons salaires des fonctionnaires, la cohésion nationale dépend d'un travail méthodique et de longue haleine.
Professeur, brève réaction.
Une très très bonne intervention. Très bonne intervention, en fait. Ça pose même la question de la finalité de l'ouverture. L'ouverture est bonne, mais l'ouverture ne doit pas gripper la machine économique. L'ouverture ne doit pas être une surcharge budgétaire au fonctionnement de l'État. Il faut absolument trouver un équilibre. Il est bon. Le principe de gérer avec l'opposition n'est en soi pas mauvais. C'est un principe qui est bon parce que, en fait, jusque-là, ce qu'on a reproché, entre autres, à la majorité actuelle, c'est celle de vouloir tout gérer. Même là où elle avait perdu, donc la majorité voulait absolument tout prendre. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un nouveau discours. Oui, il faut tenir compte de la majorité. Ce n'est pas un mauvais slogan. Je crois que c'est un bon slogan. Mais il faut absolument que cela soit entouré de garde-fous. Le garde-fou, c'est lequel? C'est que les gens n'entrent pas au gouvernement pour aller les servir. Il faut également que la nouvelle discipline budgétaire qui a été observée soit quelle sorte veut garder. Il ne faut pas appeler les gens au gouvernement pour remplir les poches, mais il faut que là, qu'on ait, non pas, à mon avis, un gouvernement de politiciens, mais un gouvernement technocrate. Et les technocrates, on peut le retrouver partout.
Merci.
Il n'est pas question d'appeler les gens juste pour remplir leurs poches ou juste pour donner des postes ministériels, étant
merci,
donné
professeur.
Qu'ils viennent de l'opposition ou de la société civile, mais il faut qu'on fasse le choix des personnes qui sont à leur place et qui sont en mesure de rendre de bons services à l'État.
Merci, professeur. Franck Kamala, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Butembo, au nord Kivu.
Je suis Joël Boussibo, à partir de Butembo, au nord Kivu. Je me demande en quoi ces résolutions, notamment le recensement de la population, le respect de la constitution, l'affectation des militaires hors province d'origine, la lutte contre l'enrichissement illicite, termineraient aussi rapidement cette guerre du M23. Car, à mon sens, l'objectif de ces assises était plutôt de trouver un moyen de sortir d'abord le pays dans la guerre et de consolider la souveraineté territoriale. Malheureusement, ces concertations n'étaient qu'un moyen pour la majorité de récupérer certaines opinions de l'opposition dans leur camp. Le temps illustrant, quand ils demandent à ne pas écarter l'opposition dans la gestion publique, cela voudrait dire tout simplement autrement que ses opposants se retrouvent aussi à leur donnant des postes. Cela n'est pas l'alternance dont on attend dans la démocratie.
Franck Kamala, votre réaction?
Encore une fois, merci. Merci. Je me réjouis de constater que qu'alors que nous sortions déjà du débat, l'intervention du professeur nous a permis de rentrer dedans et de parler des questions essentielles des concertations. Les concertations nationales, il ne s'agit pas ici de les encenser outre mesure. Il fallait y participer. Il fallait donc y participer pour en avoir l'information et la bonne information. Et donc, ceux qui ont participé à ces concertations ont constaté à un certain moment que les débats étaient houleux et très houleux. Dans
mais
quasiment
pas public comme à l'époque de la CNS où les débats étaient radio-télévisés, étaient diffusés à la radio et à la télévision.
Oui, en effet, les organisateurs ont voulu que ces débats se déroulent de cette façon-là. Et ces débats, contrairement à ce que j'entends, ces débats ont mis face à face les forces vives et les forces politiques diversifiées de notre société. Les gens venus de partout, y compris de la diaspora, de l'intérieur du pays, ont participé à ces concertations, et ce, dans tous les groupes thématiques. J'étais heureux de constater également que des députés nationaux, réputés être de l'opposition radicale, y ont participé. Vous comprenez? Et donc les débats n'étaient pas aussi faciles que les gens les pensent. Sur des questions essentielles, il a fallu débattre fort, négocier fort, pour trouver le consensus.
Et pourquoi c'était fait à huis clos?
Pas à huis clos. Je crois que, encore une fois, il fallait y être. La presse était là. Elle était bien présente.
Elle avait du mal à
seulement,
avoir l'information, la presse.
Il ne fallait pas. Et donc, vous attendre à ce que la presse soit admise dans les débats qui s'est déroulé dans des salles qui où les règles de jeu voulaient que ni soit admis que les participants accrédités formellement. Vous comprenez? Mais la presse était là, elle était accréditée, elle avait droit à un point de presse. Et donc, lorsque j'entends les amis dire, on a volé les idées de l'opposition et tout, mais le chef de l'État, le chef de l'État est assez clair. Il nous dit que rien, alors rien, ne peut justifier, dans le contexte de notre pays, que nous laissions de côté un citoyen à même de fournir un apport qui est substantiel au développement de notre pays. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Moi, je déplore simplement des réflexions misérables que j'entends. Les réflexions du genre, bon, il aurait fallu que tel soit pour que les débats soient valables. Dites-moi, qui a exclu un seul citoyen de ces débats? Il y a des citoyens qui ont pensé que leur place n'était pas là-bas.
Alors, l'autre
et
aspect,
se sont interdits d'y prendre part,
l'autre aspect,
libre à eux dans la démocratie.
L'autre aspect soulevé par oui. L'auditeur de Butembo, Joël Boussibo, il pense qu'il y a des prouesses qui ont été, n'est-ce pas, accomplies par l'actuel gouvernement et que pour cela, il faudrait laisser ce gouvernement continuer à faire son travail.
Je pense que monsieur peut se tenir tranquille. Lorsque vous lisez le fond des recommandations qui ont été formulées par des groupes thématiques du genre qui se sont penchés sur les groupes thématiques qui sont penchés sur les questions liées à la gouvernance, aussi bien la gouvernance économique, des finances publiques et la gouvernance politique. Tous conviennent des mettre en œuvre des mécanismes qui accélèrent les développements sociaux, économiques et politiques de notre pays, en préservant les acquis de la gouvernance actuelle. Ça veut dire que les uns et les autres se sont accordés d'abord sur les acquis de la gouvernance actuelle. C'est ça l'avantage. On a regardé effectivement lors du diagnostic, parce que l'honorable a parlé de diagnostic, les diagnostics économiques de notre pays a été fait. Et ces diagnostics a été fait, non pas simplement par une composante ou par une femme politique, ces diagnostics a été fait sur base des exposés qui ont été donnés par d'éminentes personnalités issues de la société civile, issues du corps scientifique de notre pays, issues des partis politiques de l'opposition, issues également de la diaspora et même de la majorité présidentielle. Et donc, les diagnostics a été fait, les diagnostics de la gouvernance économique, des finances publiques, les diagnostics de la gouvernance politique de notre pays. De ce diagnostic, ces recommandations ont découlé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les uns et les autres se sont accordés sur le fait qu'il faille en ce moment nous servir des acquis de la gouvernance actuelle comme point de départ. Ça veut dire qu'il n'est pas question de sacrifier ce qui est déjà acquis. Ce serait quand même assez idiot.
Merci. Fabien Houtombe, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et premier vice-président du groupe parlementaire UDPS allié à l'Assemblée nationale. Les délégués à ces concertations ont convenu notamment du respect strict de la Constitution. N'est-ce pas positif? On se rappelle que ça a toujours été votre combat. Hein. Vous avez même inventé un slogan, « Touche pas à ma Constitution ».
Mais là, vous avez pleinement raison. Mais moi, je vous ai dit que les concertateurs ont utilisé une voie subtile pour violer malignement la Constitution, principalement l'article 220. Vous avez très bien dit, d'abord, ces concertations se sont passées à huis clos. Ils ne voulaient pas que le peuple soit au courant de ce qui est en train de se passer là-bas. Premier point. Deuxième point, vous avez très bien dit que de toutes les résolutions, il n'y a que deux résolutions qui émergent. La première résolution, c'est la formation d'un gouvernement d'ouverture. C'est juste un appât.
Qui n'est pas mentionné formellement dans les recommandations selon Frantin Chamana.
Mais où est-ce que vous avez ramassé ça?
Ça, c'est un constatateur qui vient de donner l'information.
Alors moi, je vous dis, on met en exergue la formation du gouvernement comme appât. Et en dessous, on perturbe le cycle électoral. On met de côté la cohésion nationale. Mais qu'est-ce qu'on poursuit? Lorsqu'on perturbe le cycle électoral, les auditeurs doivent le suivre. On permet à ce que nous puissions commencer par les élections municipales locales afin d'aller au-delà de 2016 pour permettre la dilatation du pouvoir de Kabila.
Qui vous dit qu'on va aller au-delà de 2016? N'est-ce pas un procès d'intention?
Ça, je vous le confirme. Mais qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit aux concertations? Les hold-up électorales de 2011. On a volé la victoire de Tshisekedi. Il y a un contentieux. Est-ce que ils ont fait allusion à ça? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La tricherie, vous avez triché. Et maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons à la case de départ. Donc, c'est le statu quo à l'heure où nous en sommes. Nos amis doivent comprendre que ce qui s'est passé, c'est juste les congrès d'un parti politique, le PPRD. Nous aurons le temps d'organiser un congrès de l'opposition et en ce moment-là, nous irons à un dialogue inclusif.
Merci.
Et ce qui est important, que le peuple doit comprendre aujourd'hui, alors qu'il est la classe politique congolaise, elle est bien scindée. Il y a la nouvelle majorité élargie aux anciens opposants, les vrais faux opposants, les alliés stratégiques de Kabila qui étaient avec nous, mais maintenant ils l'ont rejoint. Dans un premier temps, on a appliqué la pêche à l'hameçon, les deux là qui sont au gouvernement, plus François Mwamba. Mais maintenant, c'est la pêche au filet, on prend tout le monde. Même tous ces gens là qui s'est cachés, ils sont aujourd'hui de la majorité et la majorité doit comprendre qu'en face d'elle, et là, une opposition recadrée, débarrassée de tous ses faux opposants, donc une opposition agressive. De la même manière que nous avons permis l'échec de la modification de l'article 220, c'est de cette même manière que nous allons les empêcher d'aller au-delà de 2016.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Nous avons cette réaction de bienvenue, Matoumo. Je crois que les recommandations ne sont pas différentes d'autres résolutions formulées lors d'autres assises précédentes. Pour moi, le bilan est largement négatif car aucune innovation n'a été trouvée. Et tout cela était déjà connu. Selon lui, le bilan de ces consultations est négatif.
Oui, disons que il a un point de vue que je respecte, mais cela revient à dire qu'en fait, le processus de concertation ne s'arrête pas avec l'adoption de recommandations. Mais c'est un processus qui doit au contraire se poursuivre. On doit donc déplacer l'attention vers la mise en œuvre de ces recommandations. Et ça, c'est très important. On ne peut pas dire qu'il y a échec, parce que ce qui a été proposé, ce qui a été recommandé, n'a pas encore été mis en application. Et donc, nous allons nous tourner vers ceux-là qui ont le pouvoir de mettre tout ce qui a été préconisé par les concertateurs en œuvre. C'est là, c'est sur ces terrains-là que nous attendons et nous allons juger de la valeur, de la réussite ou de l'échec de ces concertations. Toutes les recommandations qui ont été faites, pour la plupart, elles sont bonnes, mais nous devons le voir à l'œuvre.
Professeur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à conclure?
Oui, une conclusion, c'est que les concertations est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas par des actions ponctuelles, par des événements ponctuels, comme l'événement de trois semaines, de deux ou trois semaines qu'on vient de vivre, que l'on peut dire que voilà, on vient de terminer. Non, un chapitre vient de se terminer, mais les négociations, les concertations doivent être une culture. C'est sur la durée, c'est sur plusieurs années qu'on construit en fait une culture de concertation. C'est une culture qui doit s'engager à plusieurs niveaux. Au niveau le plus bas, tout comme au niveau le plus élevé.
Merci, professeur.
Donc, les concertations ont eu lieu à Kinshasa, mais nous attendons qu'en fait cet esprit de concertation se poursuive même à l'intérieur, même dans les milieux locaux. C'est de cette manière qu'on peut bâtir une société sur des valeurs de concertation, sur des valeurs de dialogue.
Merci, professeur. Franklin Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous étiez délégué de la MP aux concertations nationales. Fabien Moutombe, le député, dit que vous avez escamoté certaines questions fondamentales. C'est notamment le problème des élections de 2011.
Monsieur Fabien, l'honorable Fabien fait la contre-campagne ou la mauvaise campagne contre les résultats des concertations.
Est-ce que la question des élections 2011 a été abordée?
Bel et bien débattue au sein du groupe thématique qui s'est consacré à l'examen des questions liées à la gestion démocratique de notre pays, à la gouvernance politique de notre pays et aux réformes institutionnelles.
Et quelle était la résolution adoptée?
Cette question a été bel et bien débattue. Et donc maintenant...
Et la résolution par rapport à cette question? La recommandation?
Par rapport à quelle question?
Non, la question sur les élections de 2011.
Les élections de 2011 ont été...
La question a été débattue, n'est-ce pas? Mais à la fin, qu'est-ce que vous êtes dit?
Le pays s'est engagé dorénavant, à travers une recommandation, de tout mettre en œuvre pour organiser d'une manière, de la manière la plus rationnelle possible, les prochaines élections dans notre pays.
Merci.
Mais je voudrais également dire, ici, et à l'intention de notre collègue et de notre député national,
qu'il
est important qu'il retienne que nous avons au devant de nous dorénavant une boussole.
Merci.
Il se prépare à entrer en insurrection.
Le peuple congolais doit comprendre et savoir que ces congrès auxquels nous avons assisté, c'est le congrès de la majorité présidentielle élargie. Le peuple doit attendre le congrès de l'opposition. Et en fin de compte, nous irons à un dialogue inclusif conformément à la volonté du peuple congolais.
Merci, c'est la fin de l'émission et bonne suite de programme sur Radio Okapi.